Allez, bonsoir à tous. On se retrouve pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted. Je suis toujours accompagné de Joachim. Salut Jo.
Salut tout le monde.
Donc, on vous avait laissé la dernière fois à Houston. D'ailleurs, si vous voulez réécouter l'émission, voir ce qu'on a pu diffuser dessus, des infos complémentaires, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux, sur Twitter Deeply Rooted et sur Facebook Deeply Rooted FR. On va essayer à chaque fois d'agrémenter un peu ce qu'on a pu étudier avec d'autres exemples et d'autres sources, voilà, pour approfondir un peu le sujet, éventuellement placer deux trois trucs qu'on a kiffé sur le rap US par exemple.
Donc on était à Houston
et on avait regardé un peu le Screw and Shop, comment c'était développé localement avant de laisser l'empreinte sur le rap US. On va faire un petit peu la même chose ce soir et on va se déplacer, par contre on va aller dans la West Coast avec la Bay Area. Je te laisse présenter l'émission.
Voilà, tout à fait, la Bay Area dans le nord de la Californie, c'est la baie de San Francisco, et dans le monde du rap US, c'est un peu une petite capsule, un monde merveilleux, un peu refermé sur lui-même. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un mouvement qui s'appelle la Hi-Fi. Je ne vais pas trop vous en dire maintenant. C'est une musique plus plutôt fun et avec un BPM un peu plus rapide que ce qu'on vous a proposé la semaine dernière, le mois dernier, pardon. Ouais. Et voilà, donc on propose un premier son pour commencer qui va vous mettre dans l'ambiance. C'est donc Mac Dre, un des rappeurs qui va occuper une place centrale aujourd'hui, avec le son qui s'appelle Get Stupid.
Allez, on se retrouve juste après. Voilà, donc c'était Get Stupid de Mac Dre, son qui va illustrer très bien l'émission de ce soir. Avant de s'attarder donc sur le mouvement Hi-Fi en lui-même, on va revenir sur l'historique de la scène de la Bay Area et étudier un petit peu historiquement, socialement, musicalement, cette scène en particulier. Donc là, on parle de la baie de San Francisco, qui est quelques centaines de kilomètres au nord de Los Angeles. C'est constitué de plusieurs villes de taille assez diverses qui forment un territoire dense, une grosse agglomération en quelque sorte, de nombreuses villes et très peuplées. Là où sur le territoire des États-Unis, ce n'est pas forcément fréquent, dû à la configuration du territoire. Les grosses villes sont souvent espacées et on a rarement comme ça...
C'est plus centralisé en général.
Voilà, et cette configuration-là est un peu éparpillée, on ne la retrouve pas si souvent que ça. Parmi les principaux lieux qui composent la baie et qui vont nous intéresser, donc en plus de San Francisco, on a Pittsburgh, Richmond, on ne va pas toutes les évoquer.
San Jose.
Voilà, exactement. Ça s'arrête quoi à Sacramento à peu près, on va dire.
Sacramento, je crois que ça n'en fait pas partie officiellement.
Ouais, voilà.
Bon, c'est pas très loin.
Ouais, qui est un peu plus loin. Et les deux villes qui vont nous intéresser au niveau hip-hop en tout cas, c'est Oakland et Vallejo. Qui sont deux villes, on le verra, aux configurations assez particulières.
De berceau, hip-hop.
Voilà, exactement. Socialement, en France, surtout, on a un côté... on a une vision de la Californie qui est souvent brillante, chaude, sympa, qui vend du rêve, on va dire. Mais ce n'est pas toujours mis en avant que c'est un état où la pauvreté a une grande importance. Et ce, quelle que soit l'origine des personnes, cette pauvreté qui... s'accompagne régulièrement d'une criminalité également bien présente. On a l'exemple de Los Angeles avec ses nombreux gangs qu'on retrouve souvent au cinéma ou dans le rap. À Oakland, c'est un peu pareil. Il y a des quartiers complètement laissés à l'abandon avec des vendeurs de drogue. Et ces gangs-là s'enrichissent, se font la guerre et augmentent eux-mêmes la criminalité. Il y avait Jesse Jackson, d'ailleurs, qui est un révérend et activiste américain pour la défense des droits civiques, qui disait qu'à cet endroit-là, les drogues et les armes sont plus faciles à obtenir que les emplois, qui est une...
C'est pas le seul endroit, je pense.
Oui, voilà, exactement. Mais c'est vrai que, dans cette zone-là, il y a eu, après la fermeture d'usines autour d'Oakland, il y a eu un gros problème de chômage qui a touché toutes les populations. Encore aujourd'hui, on voit un gros contraste entre la Silicon Valley... qui est assez symbolique dans la région, qui est là où se fait toute la haute technologie, les grosses entreprises modèles américaines, etc. On essaie de nous dire que c'est là C'est un peu le
C'est
modèle,
l'Eldorado.
voilà, l'Eldorado des entreprises. Et donc il y a un contraste entre ça et les quartiers pauvres d'Auckland où une personne sur cinq est considérée comme pauvre dans cette ville selon un rapport de juin 2016 de la United Way qu'on a pu trouver. À cause de toutes ces, de tous ces problèmes, la BRA est devenue un lieu assez important dans les revendications citoyennes et notamment dans la lutte des Afro-Américains pour leurs droits. Il y a eu de nombreux mouvements sociaux qui sont apparus ou qui sont développés dans cette région. On peut penser au mouvement Black Power et aux Black Panthers
Black Panther.
qui ont émergé à Auckland directement, il me semble. Et toutes ces questions voilà, de droits civiques, de violences policières, qui est très important aussi, qui va beaucoup revenir là-bas.
Ouais, surtout les violences policières.
Voilà, c'est une zone particulièrement revendicative. Et ce parcours et cette spécificité, on va la retrouver dans de nombreux textes militants de rappeurs locaux, et ça va développer une sorte de conscience politique dans cette zone. Au cinéma aussi, c'est important de le signaler, on retrouve un peu cet esprit, voilà, notamment dans la lutte des Afro-Américains pour leurs droits, avec les nombreux tournages de films Blaxploitation qui ont eu lieu là-bas, ou qui traitaient de cette zone-là. Donc les films, c'est les films black, le genre Blaxploitation, pardon, et ça apparaît aux États-Unis au début des années 70. Et en gros, c'est des films voilà, au casting avec des acteurs
C'est de
principaux qui
la
sont...
série B, mais voilà, qui met en avant les acteurs noirs surtout.
Voilà, exactement, et à destination ouais, du coup du public noir, qui ont souvent une BO...
Ouais, voilà, il y a tous les grands musiciens noirs du siècle américain qui ont, enfin, en tout cas des années 70, Marvin Gaye, Isaac Hayes,
Voilà.
Woody Hutch, voilà.
Ouais, vraiment les mecs très forts de cette époque-là qui ont fait des BO, et donc souvent elles sont très 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 bonnes. On vous parle aussi de ce genre de cinéma parce qu'il y a un film qui a marqué la zone et dont on retrouvera l'imagerie et le délire tout autour de ça, c'est The Mac qui est sorti en 73 et qui a justement voilà, influencé sur cet aspect pimp, Mac.
Ouais, bah, il y a toute une culture de proxélytisme, on peut dire. Enfin, en tout cas, il y a l'imagerie des pimps est très liée à Auckland, tout ça. On y reviendra un petit peu, je pense.
Ouais, quand on parlera des rappeurs et de toutes ces choses-là. Musicalement, justement, avant d'arriver au hip-hop, on va essayer de comprendre. On l'a déjà évoqué un peu dans des BO de films qui étaient plus soul funky. Ce qui a vraiment marché dans le secteur, bon, peut-être pas à San Francisco, qui est un peu à part, c'est la funk qui a envahi toute la zone et qui a cartonné, quoi.
Ouais, complètement. Bah, San Francisco, en fait, c'est du coup plus une ville à majorité de la population plus blanche, plus bourgeoise, si je puis dire. Eux, ils avaient plus, c'était plus du rock, les hippies, tout ça, Grateful Dead, ce qu'on appelait le San Francisco Sound. Et pour le funk, il y a surtout un musicien qui a émergé et qui vient de Vallejo, c'est Sly Stone, donc du membre, enfin avec sa famille, Sly and the Family Stone, qui ont une très belle discographie et qui ont vraiment, ça a bien marché, c'est un des groupes les plus importants, c'est inspiré du San Francisco Sound, il y a un côté rock psyché très, enfin, très saturé, voilà, des longs solos de guitare, etc. Mais c'est un côté aussi plus funky, il a une voix vraiment, enfin, il peut faire tout ce qu'il voulait avec sa voix. Et George Clinton aussi a eu forcément été, il vient pas de là-bas, hein, mais il a forcément été très important dans le développement de la scène rap. Enfin, je dirais George Clinton a été important dans le rap où qu'on soit, mais voilà, là il y a une histoire particulière, enfin un rapport particulier. Il faisait beaucoup de concerts là-bas. Il disait que son mothership, enfin, Parliament Funkadelic, il y avait toute une histoire de vaisseau qui enfin, bref. Et donc il avait un très bon, était très bien implanté aussi là-bas. Voilà, les premiers rappeurs sont, on va dire, baignent un peu là-dedans.
Ouais, bah forcément, c'est influencé, bah, comme dans beaucoup d'endroits. Souvent, c'était le papa qui jouait dans un groupe de funk et le fils, après, qui s'est tourné un peu dans le hip-hop. Pareil pour les premiers producteurs, bah, dont du premier rappeur dont tu vas parler.
Ouais, bah c'est le premier rappeur, donc c'est Too Short. Bah lui, pareil, je crois que son père, justement, était musicien. Et lui, alors, c'est le premier rappeur, donc c'est important de le citer, mais pas seulement, c'est aussi surtout parce qu'il va distribuer sa musique de manière totalement indépendante. Il fait les tours de lui, il vient d'Auckland. Il fait les tours de tous les parcs, de tous les spots en fait, où les dealers vendent leur drogue. Et en fait, au début, vraiment, il fait vraiment sa réputation voilà, auprès des vendeurs de drogue et en les vendant comme ça, parce que il se dit que c'est les seuls qui ont l'argent pour lui payer, quoi.
Ouais, bah, c'est l'utilisation de l'argent et du réseau de distribution qui existe déjà un petit peu et qui est bien rodé, on va dire, malheureusement.
Ouais. Et enfin, du coup, il est tout de suite, la réputation locale, elle se fait vraiment comme ça, bouche à oreille, quoi. Enfin, finalement, voilà, quoi, c'est vraiment, il n'y a pas de pub, il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a rien derrière, il y a juste vraiment de l'indépendance pure et dure, quoi.
Ouais, bah, cet aspect vraiment, comme tu dis, indé, on va le retrouver, hein, vraiment tout au long de l'évolution du hip-hop dans la baie, et ça va un peu lui coller à la peau. Et c'est un peu venu, ouais, comme tu dis, de ça. À un moment, les majors sont venus voir pour ce qui se passait plusieurs fois, ils sont venus regarder, se dire, bah, ce son quand même, c'est pas mal, il y a beaucoup d'artistes, ça grouille, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et finalement, pour diverses raisons, beaucoup d'artistes, justement, une scène un peu diffuse, difficile à comprendre, avec des contrats, des mecs souvent en indé, avec des contrats compliqués, des mecs pas forcément très pro, et qui, bon, on verra que le côté festif avait tendance à vouloir beaucoup s'amuser et moins à travailler dans un cadre vraiment pro, ont fait que ils sont restés indés. Voilà.
Ouais, c'est une des raisons, en tout cas. Enfin, c'est sûr qu'ils
sont
moins pro. Enfin, il y a un côté moins. Enfin, Los Angeles, par exemple, pour prendre quelque chose de comparable, vu que c'est dans la même région, c'est beaucoup plus pro, et une industrie beaucoup plus.
Et pourtant, il y a des super artistes, on va le voir, on ne pourra pas tous les nommer, mais il y a vraiment des super artistes sur cette scène.
C'est vraiment une mine d'or, hein, la Bay Area. On n'abordera qu'une petite partie, mais il y a plein de choses. Donc j'étais surtout short, et donc ça, c'était le premier. C'est forcément très important, mais on va surtout parler donc de Mac Dre.
On n'est pas encore dans la période IFI, est avant, dans la structuration, on va dire, du hip-hop local, mais on aborde le premier personnage qui va contribuer à ce mouvement, c'est Mac Dre. Ouais.
Voilà, le personnage ô combien important, donc qui est l'auteur du morceau qu'on vous a mis juste avant. Mac Dre, qui s'appelait André X à l'origine, qui grandit à Vallejo dans un quartier très pauvre qui s'appelle le Country Club Neighborhood, qu'on appelle plus communément le Crestside. Il se fait une réputation très vite parce qu'il rappe dès le lycée. Voilà, donc la réputation locale, elle est assez rapide. Et puis il traîne avec ses potes au sein d'un crew qu'on appelle le Romper Room. Et ça, voilà, ça aura son importance parce que le Romper Room est suspecté par la police de.
C'était pas des anges, on va dire, suspectés, mais ils trempaient quand même dans des choses pas forcément.
Ouais, bah, c'est-à-dire que je crois que c'est un groupe qui s'est créé vachement. Enfin, quand c'était vachement jeune, et donc je pense qu'ils sont pas tous coupables. En fait, voilà, il y en a certains, effectivement, qui, a priori, ont braqué des banques, voilà, on peut le dire. Mais voilà, du coup, déjà, étant affilié à ça, Mac Dre est déjà un peu visé par la police, en tout cas mal vu. Sa réputation, elle explose après, en tout cas, à l'échelle de la baie, elle explose avec le single Too Hard for the Fucking Radio, voilà, qui vraiment l'impose comme un des phénomènes de là-bas. Il s'ensuit une petite série d'EP entre 88 et 92. Et surtout la police qui est de plus en plus présente et menaçante.
Ouais, elle est assez regardante sur ce qui commence à sortir. Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, l'histoire des violences policières dans la région, ça a son importance. Et lui, justement, il aura vraiment un rapport difficile avec les forces de l'ordre qui ont ils ont une tendance vraiment, ils se sentaient harcelés, quoi, clairement.
Ouais, complètement. Bah ouais, parce qu'il était surveillé. Ce qu'il a fait sortir le morceau Punk Police, donc voilà, où il explique vraiment qu'il est. Enfin, ouais, il vit ça comme un harcèlement. Il cite même le nom d'un inspecteur, voilà, ce qui est assez fou. Je sais pas si ça a été refait depuis, mais quand même. Enfin, il fallait avoir les couilles.
Ouais, c'était un affrontement direct, et de la part de la police aussi. Hein.
Ouais, ouais, bah. Enfin voilà, là, clairement, et là il accuse dans ce morceau-là, voilà, donc il y a vraiment une détention énorme, et il finit par être incarcéré. Et en fait, enfin, ce qui est aussi ce, qui est, ce que j'ai pas dit, ce qui est important, c'est qu'il est les paroles de ces morceaux qui sont regardées de très près, parce que les policiers espèrent trouver des preuves, soit contre lui ou en tout cas contre ses potes. Alors que bon, c'est pas, a priori, c'est quand même pas recevable.
Ah, si les policiers regardaient les paroles de tous les rappeurs, ouais, les trois quarts seraient en prison.
Ouais, bon, moi, ouais, j'écouterais plus de rap depuis longtemps, puis on resterait, il y aurait plus que Big Flo et Oli. Bref. du coup, il finit donc comme par être arrêté en 92. Enfin, il est condamné à 5 ans de prison en 92. Il sort quand même son premier album en 93 pendant sa peine, Young Black Brother, qui bah, y a, c'est un album qui est pas très voilà, enfin ça contient des morceaux de depuis ses débuts de 88 jusqu'à 92 et même des morceaux qu'il fait au téléphone, voilà, il y a plein de morceaux qui étaient sortis dans les EP avant, enfin là, mais c'est quand même un bon aperçu de ce qui de ce qu'est Mac Dre avant cette peine de prison, voilà.
Et... peine de prison qui va le faire évoluer musicalement, on va dire, parce qu'à sa sortie, c'est là où on va vraiment s'intéresser au sujet. Il va vouloir créer quelque chose d'autre, et enfin, il va vouloir s'éloigner de son image justement gangster et rentrer peut-être dans quelque chose de plus festif et, ouais, et de plus joyeux. Bah, si tu veux, on se balance un son.
Alors, un son, donc voilà, on parlera de la suite de Mac Dre, donc ce qui va créer après, mais on propose déjà un morceau. Qui est sorti de son premier album après sa sortie de prison et où on peut déjà entendre des prémices de ce que sera Lifey.
Allez, on se retrouve après.
C'était donc le morceau I Need an 8 de Mac Dre, on n'avait pas donné le titre, qui est tiré de son album, le premier album à sa sortie de prison, Stupid Doodoo Dumb. Donc on était resté sur Mac Dre qui va en prison. Quand il sort de prison, donc il a vraiment pris un autre, il cherche une nouvelle direction à donner à sa carrière. Donc pendant sa peine, qui fera 4 ans au final sur les 5 ans pour bonne conduite, pendant sa peine, il réfléchit vraiment à voilà, comment évoluer. Il passe son GED, donc ce qui équivaut au bac, et il prévoit, voilà, notamment avec sa mère, il fait passer les infos à sa mère pour voilà, trouver une nouvelle formule, on va dire, qui va... Voilà.
Il essaie de se renouveler, ouais, comme tu dis, de chercher de nouvelles idées pour relancer, changer un peu son son, son imagerie aussi.
Ouais, ouais, bah oui, parce qu'il a une image plus dure, voilà, avec toutes ces histoires avec la police qui ont vraiment marqué sa carrière au début et qui l'ont rendu quand même aussi très iconique parce que ça a déchaîné les passions. Il y a des gens qui ont proclamé son innocence, etc., enfin, comme on disait tout à l'heure. Là, il veut adoucir un peu son image. C'est un personnage qui était à la fois voilà, très, très, vraiment street et dur, mais en même temps qui était aussi très fun. Et il veut en tout cas rendre ce côté-là plus visible à travers sa musique. Et donc, là, voilà, l'album Stupid Doodoo Dumb, c'est déjà un premier jet dans cette veine-là. On sent qu'il voilà, y a déjà les fondations de ce qui sera Lifey, donc on va aborder voilà, là, tout de suite. Et c'est, voilà,
bah, oui, comme tu dis, c'est les débuts. Bon, après, c'est pas évident quand tu sors de 5 ans de prison de dire on va faire un truc festif. Hein. Si, ça paraît évident, mais tu peux dire le mec est devenu un peu austère, etc. Non, pas du tout. Lui, il s'est dit, je pars, je relance quelque chose. Il a en même temps, on va dire, quand il sort, ça a changé un petit peu aussi, la baie, et il utilise un peu le mode de vie qu'il voit des jeunes et qui va rejoindre ce délire Hi-Fi au-delà de la musique. C'est toute l'imagerie, la danse, toutes ces choses-là dont on va parler. Le terme Hi-Fi en lui-même apparaîtra en 98 à Oakland dans un morceau de Kick Dasnik, autre acteur majeur du coin, morceau qui s'appelle All Right Cool. Les origines du terme viendraient du mot hyperactive ou hype and fly, une combinaison des deux mots, c'est dur de le déterminer. L'autre truc qui revient beaucoup, comme tu l'as dit dans le titre de l'album précédemment, Stupid Doodoo Dump, on a eu le premier morceau aussi de Mac Dre qui s'appelle Get Stupid. Souvent, c'est vraiment Going Dump.
Going Dump, Going Stupid. Enfin, voilà,
c'est ouais, devenir débile, en gros, se lâcher, se désinhiber, en quelque sorte, quoi. Et c'est ce qu'on retrouve dans la danse, notamment le turfing, parce qu'ils utilisent beaucoup un argot spécifique à
Ouais,
son.
c'est aussi une région très spécifique pour ça. Ouais,
Qui ont un argot vraiment spécial pour s'exprimer justement de ces éléments clés autour de ce concept hi-fi. Turfing, donc c'est la danse, les danseurs qui se lâchent, qui font ça de façon déstructurée, bizarre. Il faut aller voir ça dans les clips, c'est
comme
très.
un exutoire.
Ouais, voilà, c'est assez drôle. Justement, ouais, tu parles d'exutoire. Certaines analyses sociaux voient ça comme rejoignant l'historique revendicatif de l'abbé, comme souvent les gens qui dansent peuvent aussi exprimer leurs émotions. Et là, la haine, l'excitation, c'est des choses qu'on retrouverait justement dans cette forme de danse et dans les sonorités un peu plus rapides et, bon, ils disent agressives, ce qui n'est pas forcément le cas. Et pour d'autres, c'est carrément festif. C'est juste que c'est festif, quoi, et que les gars se lâchent totalement et qui font la fête dans la rue, principalement, avec leurs potes, voilà, devant chez eux.
Ouais, sachant que c'est aussi vachement lié à la prise de drogue de l'exta, enfin, ce qui sera le cas chez MacDre, voilà, qui crée le mot thieves, qui se rapporte à l'exta, et voilà, il y a aussi encore une fois un peu lié à la drogue.
Ouais, bien sûr,
J'ai
comme on avait
l'impression
vu un
que.
peu à Houston, c'est lié au mode de consommation et de vie
Ouais,
de ces jeunes à ce moment-là,
donc
quoi.
voilà, il y a une partie peut-être un peu exutoire, mais une partie quand même très très
Ouais.
festif, voilà, c'est.
Et dans les conneries qu'ils font et dans les trucs à remarquer, donc il y a les voitures, les sideshows, donc c'est quand ils font, c'est voilà, exhiber sa voiture, tourner avec.
Voilà, faire des donuts sur les parkings, enfin ils appellent ça faire des donuts quand ils tournent, voilà, ils font un tour complet.
Ouais, voilà, exactement. Et l'autre. Autre chose qui. Bon, là, c'est qu'eux qui font ça. Enfin, à la de base de ce que j'ai vu, c'est le ghost
Oui, c'est
riding.
vraiment une pratique de là-bas, quoi.
Pratique locale. Je sais pas si c'est dangereux, mais en tout cas, j'avoue que je tenterai pas. C'est la conduite fantôme, c'est-à-dire que la voiture avance toute seule, personne au volant, et il y a carrément des mecs qui courent à côté, des mecs assis sur le toit, sur le capot.
Going dumb, voilà.
Ouais, voilà, c'est. Ça se
Et
revendique
ghost riding.
pas. Hein. Voilà, ça se revendique pas non plus intelligent, mais bon, c'est drôle, cette imagerie est assez drôle,
Dans les clips, c'est ouais, c'est assez
ouais, est
insensé.
associée clairement à la musique, donc allez voir ce genre de clip. On va peut-être revenir sur Mac Dre, justement, et sa sortie de
Ouais,
prison.
pour finir du coup sur Mac Dre, sorti de prison, donc il est vraiment, comme je disais, sur une nouvelle direction. Il participe activement à ce nouveau mouvement qui se crée à travers les pratiques que tu as décrites. Il fonde son label Thies Entertainment, je crois, fin des années 90 ou début 2000. Voilà, donc Thies, en fait, qui vient de l'exta, comme je disais, enfin, pour lui, ça se rapporte à l'exta. Il y a plein de déclinaisons, il fait la Thistle Dance, enfin, voilà, qui est
Il y a la
aussi la danse.
tease
Thies
face.
Face, voilà. Thistle Dance, un de ses morceaux d'ailleurs emblématiques, je vous invite à écouter. Il est aussi, je crois, c'est le premier avec Kick Dasnik, donc que tu as cité, ils ont le morceau Hi-Fi en commun, voilà, qui est le premier, voilà, qui, on va dire, quelque part, officialise, un des premiers à officialiser. Mac Dre, il est vachement productif, surtout après sortie de prison. Il a 10 albums en 6 ans. Qui sont pas tous dans cette veine festive, mais il y en a quand même. Enfin voilà, le meilleur exemple, c'est Ronald Reagan, Reaganomics, qui sort en 2004.
Très bon album, ouais, qu'on a vraiment apprécié et
Voilà.
qu'on vous conseille chaudement.
Voilà, dont est tiré Get Stupid, qu'on a mis aussi tout à l'heure, au début d'émission. Voilà, 2004, c'est aussi l'année de la mort tragique de Mac Dre, qui se fait tirer dessus après un concert à Kansas City, voilà, qui est vécu vraiment comme un grand traumatisme pour les.
Bah oui, parce que lui, il était un peu pas à son apogée, mais presque quand même. Et pour le mouvement hi-fi, c'était ouais, les moitiés des années 2000, c'était là où le développement s'est.
Là, on va arriver vraiment l'apogée de ce mouvement-là.
Voilà. Bon, après, quand on dit l'apogée, il faut recontextualiser. C'est, comme on l'a dit, cette scène, elle est un peu refermée. Donc, c'est surtout au niveau local, Mac Dre. Bon, il a dû avoir un petit impact nationalement, mais c'était vraiment surtout localement, il était très connu. On verra plus tard que ça a un petit peu réussi à sortir de ce carcan, mais pas tellement. Mais voilà, Mac Dre, personnage central qui a marqué la scène plusieurs fois, qui a traversé les décennies. Il a commencé à la fin
Fin
des
années
années 80.
80, fin 80,
Il a
début des années
structuré un peu
90.
cette scène justement de la Bay Area. Et à sa sortie de prison, en plus, il a marqué une deuxième fois en accompagnant le lancement de sous-genre hi-fi, entre guillemets, pour dire à quel point il était important. Bon, c'est un de ses potes, Mac Maul, qui dit ça, que c'est que pour eux, c'était un peu leur Tupac ou Biggie, quoi. C'est le mec qui s'est fait tuer, mais c'était vraiment une icône musicalement, et le personnage en lui-même, il est très reconnu.
Encore aujourd'hui, il est vachement... Enfin, il est encore regretté. Enfin, voilà, c'est vraiment, là-bas, il y a vraiment un engouement incroyable.
Il a marqué son époque. On va s'arrêter avec Mac Dre, on va passer à d'autres artistes, un autre majeur qu'on verra après, et voir un petit peu justement les mecs qui ont poursuivi dans la continuité de Tease Entertainment et de l'héritage qu'a pu laisser Mac Dre.
Qui est le label de Mac Dre, qui a été la maison de plusieurs des artistes du mouvement Hi-Fi, mais après sa mort, voilà, l'héritage à travers le Tease Entertainment est assez fort. Et on va commencer donc avec le morceau Sideshow, qui est de Mista Fab, donc du label Stage Entertainment, et avec Kick Da Sneak et Too Short.
Dont on vous a déjà parlé un tout petit peu. Allez, on se retrouve après justement pour parler des autres artistes.
C'était donc le morceau Sideshow de Mista Fab, accompagné de Too Short et Kick Da Sneak. On va s'arrêter un peu sur Mista Fab, qui est un rappeur important du mouvement Hi-Fi. Il fait donc partie du label Tease Entertainment de Mac Dre. Il a notamment, ses albums les plus qui sont le plus dans cette veine Hi-Fi, ce sera Son of a Pimp et Da Pedestrian. Deux bons albums que je recommande, où il y a vraiment des bons exemples de morceaux Hi-Fi, et en même temps aussi des choses plus, c'est assez varié, c'est assez divers. Des morceaux plus réfléchis, plus profonds. Il y a un peu, il y a un peu plus de fond aussi. Il y a parfois, il fait pas que de.
Ouais, dans les textes, il a un chouïa plus engagé que les autres, on va dire.
Ouais, en tout cas, que la plupart des artistes dont on va parler aujourd'hui, il y a un peu plus ça chez lui. Ouais. Il ne fait pas que des ghost rides et devenir stupide. Il fait même revivre encore le mouvement aujourd'hui, le mouvement qui s'est quand même un peu éteint à la fin des années 2000. Il fait encore revivre, il fait des hommages. Il a fait un hommage à Mac Dre en 2016 avec un remix, un morceau qui s'appelle Still Feeling It et qui a été remixé plusieurs fois, mais dont il y a un remix avec Snoop Dogg et Kick Da Sneak. Voilà, je vous invite à aller voir, il y a plein de des petits passages de morceaux, des morceaux connus de Mac Dre, qui sont c'est vraiment cool. On va parler aussi de Kick Da Sneak, donc un peu qui est sur le morceau Sideshow, qui est, comme tu disais, c'est un des pionniers qui a inventé le terme. Lui, pour le coup, il est ni dans Thieves ni dans l'autre label Sick Willit, qui est l'autre label important. Style un peu particulier, je sais pas si vous avez, c'est le...
Vous reconnaissez normalement quand il est sur un morceau, vous entendez sa voix.
C'est le dernier là de Sideshow, c'est assez. On comprend pas grand chose en général quand il rappe, j'avoue, c'est assez particulier, mais bon, c'est ce qui fait son charme aussi. Il a une discographie lui aussi, quand même bien remplie, hein. Généralement, c'est des gens très productifs, mais comme il est autoproduit, qu'il est en indé complètement, ça sonne un peu cheap, je trouve. Mais je vous recommande quand même l'album Counting Other People's Money. C'est quand même, je pense, son meilleur exemple dès 2003. Donc voilà, il y a déjà des morceaux Hi-Fi. On l'a pas trop dit, mais Hi-Fi, ça culmine, on va dire, 2004, 2006, 2007. Voilà. Puis après, ça s'estompe un peu. L'autre label, j'en ai parlé rapidement, c'est Sick Willit, le label de notre ami Forti qu'on va évoquer plus en détail tout à l'heure. Mais avant ça, juste citer quand même les artistes plus modestes qui ont fait partie de ce mouvement.
Qui ont fait quelques morceaux quand même un peu emblématiques, on va dire.
Des morceaux, même des albums, si vous êtes motivé. Hein, mais Federation, notamment, a fait un morceau qui s'appelle tout simplement Hi-Fi, je crois, avec E-40. Federation, c'est un groupe qui est chapeauté par Rick Rock, c'est un des producteurs de longue date de E-40, et qui est aussi un des producteurs les plus importants de ce moment-là, avec Trax et Million, qui a produit Sideshow. Il y a Turf Talk aussi, qui est chez Sick Willit, et qui est qui lui aussi a, je me souviens plus des titres de son... Voilà. À part ça, on a donc voilà.
Il y a une ribambelle de mecs après qui gravitent autour d'eux, qui ont été plus ou moins marquants. Voilà, si on peut citer The Pack.
The Pack, oui, le groupe de Lil B, The Team, Numb, Messi Mar, Sang Queen, voilà, il y en a beaucoup.
Et d'autres qui ont même surfé sur la.
Bah, ouais. Too Short, voilà, par exemple, a surfé sur cette vague-là. Lui-même, voilà, Too Short, donc le pionnier, voilà, il a déjà 20 ans de carrière, mais voilà. Et son album Blow the Whistle, il y a quelques morceaux hi-fi. Voilà. Je peux recommander, moi, pour avoir une bonne idée de ce que ça peut être et un peu de la variété de la scène de cette époque, la compile du producteur Atrax A Million, qui s'appelle The Slap Addict. Ça donne une bonne image, une bonne idée, pardon, une bonne idée de
ouais, des mecs qui participaient de toute la
voilà,
musique,
de toute la variété de rappeurs qu'on a, quoi.
Mm-hmm. Ouais, bah on va revenir sur E40 dont tu parlais tout à l'heure, tu parlais de son label, et on va s'envoyer un premier son de lui avant de regarder un peu comment il a participé à cette scène. Mm-hmm. On va se balancer Ye Area.
Voilà, produit par Rick Rock.
C'était le son de E40, Yeah Area. On va justement parler du boss, sûrement le boss de la Bay Area et qui a grandement contribué au mouvement FI durant sa période Fast. C'est E40. Bah, je te laisse présenter peut-être un petit peu son parcours.
Ouais, voilà, on va revenir plus largement sur ce personnage ô combien important. Donc Earl Stevens, de son vrai nom, c'est un rappeur de grand talent et un entrepreneur aussi, voilà, ce qui aura son importance. C'est un des premiers rappeurs, surtout, il a une vision plus qui dépasse un peu la région, les frontières de la Bay Area. Il a vraiment l'ambition
de faire une vraie carrière, même nationalement, et de se faire connaître.
Ce qui est quand même assez rare, finalement, dans la région. Alors que pourtant, ça reste un mec qui est très attaché à sa famille, c'est très familial. Son crew The Click, au début de sa carrière, enfin, il commence sa carrière en parallèle en solo et avec le groupe The Click en 93. The Click, je crois qu'il y a sa sœur, son frère et son cousin qui en font partie. Il fait aussi rapper son fils dès que son fils a 5 ans sur son premier album. Il fait
des petites interludes.
Ouais, voilà, il fait un petit interlude. Voilà, enfin, c'est assez rigolo. Et sur l'album suivant, il le fait pour le coup réellement rapper. Voilà, c'est couplet mémorable de petit I. Lil I, comme ils disent. Il fonde aussi le label Sequidit dès le début. Donc il a vraiment ce
côté. On a évoqué tout à l'heure, qui a marqué, enfin important aussi. Hein.
Ouais, très important, enfin voilà, dès le début il a cet esprit d'entrepreneur, etc. C'est à partir de son deuxième album In a Major Way, il commence aussi vraiment donc à s'ouvrir en dehors de, donc il y a toujours son entourage très proche, sa famille qui est là, mais il fait aussi des morceaux avec des rappeurs plus
extérieurs,
d'autres horizons, plus extérieurs. Notamment voilà, Tupac qui fait deux morceaux.
Qui est extérieur, mais qui connaît bien le coin quand même.
Ah oui, bah, Tupac il a commencé à Oakland, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est avec le groupe Digital Underground. Et donc voilà, Tupac qui revient un peu sur ses terres. Voilà, c'est un rappeur qui n'est pas évident, on va dire, à aborder. Il a un flow torrentiel. Son surnom, c'est Forty Water, et il y a vraiment l'impression qu'il y a déverse un torrent de mots, de syllabes, de rimes. Voilà, on a parfois l'impression qu'il est orbite.
C'est pas du tout pareil que Mac Dre, hein, qu'on a écouté.
Ouais, voilà, Mac Dre, ça glisse bien,
c'est
dès le début.
Fun, plus accessible, on va dire. E40 est plus réputé, mais c'est vrai qu'il envoie, quoi.
Ouais, au niveau de son flow, on va dire que au début, c'est pas évident, c'est un peu déroutant. Il tape aussi des délires dans les aigus, dans les trucs. Enfin, c'est complètement fou comme rap. Mais une fois qu'on s'y fait, moi je suis devenu totalement fan du bonhomme. Hein. Et c'est aussi un grand inventeur, un gros néologiste. Il invente plein de mots. Il a vraiment son propre slang, comme on dit.
Ouais, un vocabulaire particulier.
Un vocabulaire très particulier. Mais voilà, dans sa première partie de carrière, voilà, qui a vraiment un succès avec son deuxième et troisième album. Après ce troisième album, The Hall of Game en 96, sa cote chute un peu. Elle est, voilà, il est fait des albums qui restent d'une bonne qualité, mais qui a, voilà, y a moins de succès. Moins de, voilà, y a
un peu... Il cherche à se renouveler à ce moment-là. Enfin, il va chercher du fait du justement
en tout cas,
de
en tout cas, voilà,
ça retombe un peu quoi.
Il collabore beaucoup avec des rappeurs de partout, notamment Lil Wayne, Birdman, de Nouvelle-Orléans, Clips, Bun B et Pimp C, UGK, Pastor Troy. Et puis, mais la rencontre qui va tout changer, c'est voilà, vers le début des années 2000, il commence à faire des morceaux avec Lil Jon et la collaboration c'est de plus en plus.
Pour lui, ça va être intéressant. Enfin, le Lil Jon, c'est il y a une comparaison qui a été faite avec Krunk justement,
ouais.
Où Lil Jon était un grand artisan. Pourquoi ? Parce que au niveau des sonorités, bien sûr, il y a des similitudes. Hein. C'est le même délire de fête en tout cas. Fuck it, let's party quoi. C'est on se lâche, on kiffe. Les lignes de basse pour danser, vraiment faites pour s'enjailler, etc. La période où ça a cartonné, qui était à peu près pareil,
un petit peu avant,
justement, dans les années 2000, E-40 voit ça, donc lui, il se dit, bah, si je faisais un petit peu un modèle pareil que cette musique, enfin, cette tendance sudiste qui a commencé à envahir un petit peu partout le territoire, et du coup, il a commencé à se rapprocher de Lil Jon. Too Short l'avait déjà fait à l'époque.
Too Short est toujours là avant.
Ouais, voilà, il s'était déjà un peu rapproché de lui. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un parallèle entre les deux, même si voilà, les paroles, c'était pas toujours la même chose, mais c'était vraiment.
Ouais, puis le Krunk, c'est plus une musique de club, strip club.
Voilà, exactement.
Alors que, voilà, Hi-Fi, c'est plus dans la rue, enfin, un peu n'importe où. C'est moins lié au club, en tout cas.
Ouais, voilà, et le Krunk a finalement mieux marché, hein, si on regarde. E-40 n'aura pas réussi totalement ce qu'il voulait faire, mais il aura réussi. Mais il a donné quand même une certaine importance au niveau national au Hi-Fi, et avec le morceau emblématique qui est produit
par Lil Jon,
justement, qui s'appelle Tell Me When to Go. On vous propose pas forcément ce soir, mais c'est le morceau, le hit un peu majeur de ce mouvement-là. Vous pouvez aller l'écouter. Il passe bien aussi, il n'y a pas de souci.
Mm-hmm.
Et donc voilà, il a essayé de lancer un peu ce truc-là, et je pense que ça va le remettre un petit peu dans le droit chemin pour sa carrière.
Bah, en tout cas, commercialement, ouais, il fait plusieurs collaborations sur quelques morceaux en 2002-2003, je crois. Et après, en 2006, il y a l'album My Ghetto Report Card, dont sont issus Tell Me When to Go et aussi Yeah Contre Zami. Qui là, voilà, c'est pas, moi je trouve que c'est pas un meilleur album, mais simplement en tout cas ça,
commercialement c'était plus efficace.
Il a mieux sûrement communiqué tout ça avec Lil Jon.
Lil Jon, il a la recette, on va dire, donc voilà, il lui a donné une partie de celle-ci et il a su en profiter
complètement. Mais là où il prend, je trouve, encore plus d'importance, où il s'impose vraiment comme le patron, c'est peut-être dans après le Hi-Fi, quoi, quand
fin des années 2000, quoi.
À la fin des années 2000, ça retombe un peu. Il y a, voilà, l'effet de mode est un peu passé. Mais E-40, lui, continue, et plus que jamais d'ailleurs, il est plus productif que jamais. Il sort les albums par double ou par triple. Enfin, mais c'est bien, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas juste.
Ouais, il néglige pas la qualité, forcément. Voilà. Quoi.
Ouais, non, c'est même peut-être. Il a une qualité, on va dire un niveau global qui est peut-être même plus élevé qu'avant, et surtout ça devient vraiment le patron de la scène, où tous les jeunes artistes doivent aller lui prêter allégeance, entre guillemets,
lui baiser la main limite, voilà, pour avoir sa validation et bosser avec lui. Et donc c'est vrai que lui, il a eu une carrière avant le Hi-Fi, il en a eu une après, mais il fallait l'évoquer parce qu'il a traversé cette période et il a quand même marqué.
Oui, et puis comme tu disais, avec cet album My Ghetto Report Card et le Tell Me When to Go, il a vraiment su donner une résonance plus, enfin, en dehors des frontières de la baie. C'est ça aussi.
C'est ça qui a été marquant pour le coup. Et comme tu le dis, le fait qu'il ait accompagné les artistes, c'est lui un petit peu qui a donné cet héritage, qui a pu transmettre un petit peu l'héritage de ses sonorités aux jeunes qui sont arrivés après. On va en parler justement, comme pour Houston, on va étudier un petit peu les marques laissées par le Hi-Fi. Et le premier morceau qui va illustrer ça, c'est Function de E-40, justement, avec YG, Problem et Iamsu.
Iamsu, donc un des jeunes, un jeune loup de la scène qui va apparaître début des années 2010.
Yes, allez, on se retrouve après.
C'est donc le morceau Function D40 accompagné de YG, Problem et Iamsu. On va s'arrêter un peu sur Iamsu qui est un rappeur important, un des jeunes rappeurs, un jeune artiste important à sortir de la baie depuis, après l'essoufflement du mouvement Hi-Fi. Iamsu avec son groupe HBK Gang et les rappeurs notamment Sage the Gemini, Cool John, Pilo, on entend vraiment les réminiscences de la musique Hi-Fi à travers leur discographie. Je conseille vraiment Iamsu.
Ouais, c'est sympa, c'est divers, il est bon. Hein.
Ouais, il est bon, là, il fait. Enfin, plus actuel, hein, du coup, ça, c'est assez varié. Notamment la série de EP Boss Up qui est sortie en 2017, je conseille. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Clyde Carson pour rester dans la baie, Clyde Carson qui est rescapé du groupe The Team, que j'ai lu citer rapidement. The Team, c'était vraiment du pur hi-fi. Et Clyde Carson, il a fait un album aussi en 2017, Something to Speak About 2, enfin 2 quoi, enfin c'est le, et c'était, là on entend encore très clairement les restes de Hi-Fi, enfin c'est encore très présent quoi dans la baie. Quoi d'autre?
Dans les héritages directs que tu as cité tout à l'heure, il y avait The Pack,
ouais.
Et dont Lil B est sorti.
The Pack, oui, du groupe, enfin le groupe de Lil B, qui était un groupe de collégiens, enfin lycéens, excuse-moi, t'as pas exagéré. Avec le titre Vance qui était vraiment un hit. Ça fait un hit vraiment du moins Hi-Fi, très important. Et Lil B est sorti de là. Bon, aujourd'hui, c'est devenu totalement autre chose. C'est un peu fou pour ceux qui connaissent Lil B, tout le délire autour du Bass God, tout ça. Mais il a fait là dans son dernier album Black Ken, qui est sorti en 2017, il y a toute une partie vraiment qui est encore de l'hommage au Hi-Fi.
Dans les autres artistes nationaux qui ont eu un gros impact, dans les héritages plutôt indirects, on va dire.
Pour sortir un peu du carcan de la baie.
Ouais, voilà. Il y a eu DJ Mustard qui a même été accusé de voler le son de la baie, justement, parce que ces sonorités dansantes avec ses basses, etc. Tout ça, on reconnaît clairement une filiation de là-bas. Et lui, c'est juste qu'il s'en réclame pas forcément, mais on peut pas dire qu'il a volé non plus ce son-là. Mais en tout cas, il l'utilise il s'en est inspiré et il l'utilise pour faire des choses qui, elles, cartonnent par contre.
À travers lui, il y a toute une influence indirecte.
Sur d'autres artistes, d'autres styles musicaux, même sur la pop, etc. Enfin, dans le début, 2012-2013, vu la moitié des sons qu'on entendait venaient de lui, il était ultra productif et ultra performant, donc il y a eu cet héritage-là. Il y a eu Drake aussi, encore une fois, on vous en avait parlé déjà sur Houston, il s'était intéressé à ce qui s'était fait là-bas.
On parlera à chaque fois de Drake dans cette rubrique-là.
Ouais, parce qu'il a su à chaque fois aller voir, par opportunisme ou par intérêt, ou mélange des deux.
Il
a su...
toujours comme ça.
Il part
de sincérité, mais aussi...
Il regarde ce qui pourrait marcher et du coup, il fait aussi des hommages, on va dire, parce que le morceau, par exemple, The Motto avec Lil Wayne, qui est sorti sur Take Care en 2011, c'était plutôt un morceau hommage au niveau sonore, au niveau visuel, avec tous les ingrédients, le ghost riding, les danses, tout ça.
La mère de Mac Dre qui apparaît dans le.
Voilà, dans les paroles.
Il parle aussi de Mac Dre dans les paroles.
Oui, voilà, c'est vraiment plutôt hommage à ce style de musique. Et pour terminer, peut-être sur justement des mecs très actuels, des petits jeunes d'aujourd'hui.
On va se quitter sur quelque chose de très, très immédiat, très actuel. Ce sont les jeunes S.O.B. RBI qui sont de Vallejo, comme Mac Dre, qui sont fait repérer là, parce qu'ils ont été dans la BO de Kendrick Lamar. Et voilà, ils
Black
ont
Panther
Black Panther, oui, pardon. et voilà, qui ont encore on entend encore aussi là une influence du Hi-Fi sur ces jeunes-là. Dans leur dernier album Ganging, et donc un morceau qu'on va vous passer, ouais, qui s'appelle Kent et qui est produit par Mustard, pour boucler tout ça.
Ouais. Bah, avant de se quitter, du coup, bah, déjà, je te remercie.
Merci à toi
pour cette émission sympa. Si vous avez apprécié et que vous voulez la réécouter ou écouter celle d'avant qui était sur le Screw & Shop à Houston, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. On va vous balancer aussi des conseils éventuellement d'albums, de documentaires, d'interviews autour de ces sujets-là et pourquoi pas d'autres sujets d'ailleurs. Donc, c'est Deeply Rooted sur Twitter et Deeply Rooted FR sur Facebook. Voilà, notamment un documentaire sur Mac Dre que tu avais vu sur YouTube.
Legend of the Bay, je crois.
Voilà, qui nous avait plu. Et puis, on vous retrouve du coup pour une prochaine émission la prochaine fois.
Ouais, à la prochaine.
Allez, salut.
Salut.